d'économie.
Ituri, la suspension de l'exploitation minière en province orientale n'est pas du tout suivie. Les entreprises minières déclarent ne pas être concernées par ces décisions du gouvernement provincial. Faux, rétorque le ministre provincial des Mines qui s'appuie sur le code minier congolais. Ce soir, nous reviendrons sur les résultats d'une enquête scientifique sur la corruption dans la ville de Goma, une pratique qui bat son plein dans les services publics en privé, d'après l'Office pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Des experts congolais viennent d'être formés sur le traitement des données satellitaires dans le développement d'un pays. Cette formation, organisée par le Japon et la RDC, est en marge de l'émergence à l'horizon 2030. Bonsoir et bienvenue à tous. L'arrêté du gouverneur de la province orientale suspendant toutes les activités minières en Ituri souffre dans son application. Il n'est pas respecté par plusieurs exploitants dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. La société minière de Kilomoto, Sokimo en sigle, se dit ne pas être concernée par cette mesure, ce que rejette le ministre provincial des Mines qui s'appuie sur le code minier congolais, Delvin Waïsala.
Nous sommes au bord de la rivière Nizi, nord-ouest de la localité d'Igabarrière, à 25 km au nord de Bounia. Des orpailleurs continuent à faire leur travail, la recherche de l'or. Pour eux, ils n'ont pas d'autre gagne-pain que l'orpaillage. Un autre sous-traitant de la Sokimo, dans la localité de Dala, dans le territoire de Ndjougou, estime que le gouvernement provincial devrait harmoniser les points de vie avec la Sokimo, qui a signé des contrats avec certains exploitants miniers artisanaux et même semi-industriels. Pas d'Awalo.
Nous pensions, en tant qu'orpailleurs, que le gouvernement provincial, avant même de lancer son arrêté, devait commencer à harmoniser avec la Sokimo comme partenaire ici sur le terrain.
La Sokimo déclare ne pas être concernée par cette décision du gouvernement provincial dans les concessions qu'elle contrôle. Lorik Wamara, son porte-parole, estime que la Sokimo devrait être contactée au préalable. Il est joué au téléphone depuis Kinshasa.
Je pense qu'ils ne sont pas concernés par la décision parce que si ça devrait être le cas, il est évident que monsieur le gouverneur de la province allait saisir la Sokimo préalablement pour voir avec la Sokimo quelles mesures d'encadrement on devrait prendre ensemble pour trouver des solutions aux problèmes s'il y a des problèmes.
De son côté, le ministre provincial des Mines rejette cet avis qui est contraire à l'esprit du code minier en RDC. Paulin Odiane précise que le gouverneur de la province orientale a agi conformément à ses prérogatives.
Le code minier est clair, tout opérateur minier qui veut entreprendre des activités minières au niveau de la province X doit impérativement avoir le récépissé du gouverneur. On ne dit pas qu'il faut passer par Sokimo.
Notez qu'une réunion entre les opérateurs miniers et le ministère provincial des Mines est prévue à Bounia dans quelques jours pour cette question. Bounia, Delvé, Waïsala, Radio Kapi.
La corruption règne autant dans les services publics que privés. Voilà ce qu'on peut retenir du rapport de l'enquête scientifique portant sur l'indice de perception de la corruption dans la ville de Goma. Rapport présenté publiquement ce vendredi par l'Office pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, OBLC en sigle. Denise Loukesso a assisté à la présentation du dit rapport.
Le rapport cite les 5 premiers secteurs clés les plus touchés. C'est notamment la police des frontières, la DGDA, les cours et tribunaux, la police des mines et la police judiciaire pour ne citer que ceux-là. Mais les autres services ne sont pas épargnés. Le gouverneur Julien Paluku, qui appelle tous ses services à s'approprier ces rapports, brandit des sanctions en cas de corruption avérée.
Maintenant que tous nous sommes conscients que la corruption est à côté de nous, celui qui va tomber dans cela demain et après-demain va s'exposer à la rigueur de la loi. Parce que le procureur général a même indiqué clairement que la loi de 2005 réprime sévèrement et prive même aux opérateurs politiques des droits de se présenter même aux élections pendant une période de 10 ans. Et les gens sont condamnés pour une période allant jusqu'à 15 ans. Donc je crois que cette étape ici est une étape qui crée la peur dans les chefs de tout le monde, et du gouverneur et de tous les services. Maintenant, demain quand je vais sanctionner, on ne dira pas que c'est la chasse à l'homme. Parce que j'aurais commencé par une étape de sensibilisation pour que nous comprenions, nous tous, que ce fléau est chez nous et que nous devons lutter contre lui.
Pour le gouverneur des provinces, l'objectif de cette enquête menée en décembre 2014 est de lutter contre la corruption, un fléau qui gangrène la vie aussi bien publique et privée au Nord Kivu. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
Il vient de nous rejoindre dans ce studio, lui c'est François Kadima qui nous parle de la corruption. Bonsoir François.
Bonsoir Mireille. La corruption, selon la définition du dictionnaire, est tout acte consistant à soudoyer quelqu'un pour qu'il agisse contre son devoir. Celui qui donne l'argent pour obtenir coûte que coûte un service ou un bien est le corrupteur. Et celui qui reçoit cet argent ou le cadeau lui présenté est le corrompu. Il n'y a pas de corruption s'il n'y a pas quelqu'un qui donne et s'il n'y a pas quelqu'un qui accepte. Actuellement en RDC, on parle de la corruption en politique, dans le monde des affaires et dans presque tous les secteurs. Madesu Yabana, disent les fonctionnaires et autres, et Mbote Yalikasu chez les policiers de roulage sont aussi des formes de corruption. Alors la corruption autrement est le fait d'exiger une récompense en contrepartie d'un service pour lesquels on a été engagé dans une entreprise. Cela dans le but d'en tirer un bénéfice personnel ou illégal. Une autre école définit la corruption comme détournement d'une interaction avec une ou plusieurs personnes à dessein. Pour les corrupteurs, cela consiste à obtenir des avantages ou des prérogatives particulières. Pour les corrompus, d'obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. La corruption conduit généralement à l'enrichissement personnel du corrompu ou à l'enrichissement de l'organisation corruptrice. La corruption peut concerner toute personne bénéficiant d'un pouvoir de décision. Il peut s'agir d'une personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre d'une entreprise privée, un médecin, un arbitre ou un sportif ou également un syndicaliste. Sachez que l'on distingue la corruption active de la corruption passive. La corruption active consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu et la corruption passive consiste à accepter cet argent. Un exemple classique est celui d'un homme politique qui reçoit de l'argent à titre personnel ou pour son parti de la part d'une entreprise de travaux publics et en retour, il attribue un marché public. L'homme politique pourrait être accusé de corruption passive. Il a reçu de l'argent alors que l'entreprise peut, elle, être accusée de corruption active. Rappelons que la RDC a été classée 154e sur 177 pays dans le classement Transparency International sur la perception de la corruption.
Merci François. Direction le Sud Kivu, où la Société des microcrédits congolais SMICO a lancé officiellement ses activités le vendredi dernier dans la cité d'Uvira. Cette nouvelle institution bancaire offre plusieurs services à ses clients membres. C'est entre autres le compte à vue rémunéré avec possibilité d'avoir un chéquier, le dépôt à terme pour l'épargne, l'octroi des crédits aux salariés, aux petits et moyens commerçants ainsi qu'aux groupes solidaires. Ces crédits peuvent aller de 12 à 18 mois et offrent plusieurs garanties, selon le président du conseil d'administration de cette société, Michel Verhulgen, est au micro de Fistongoma.
Aujourd'hui, pour une institution comme la nôtre, contrairement à des COPEC, la Banque centrale exige depuis 1er janvier 2014 que nous ayons 350 000 dollars de fonds propres et au 1er janvier 2017, nous devrons avoir 700 000 dollars de fonds propres, ce qui montre la solidité de cette institution. Aussi, notre métier, c'est vraiment tous les actionnaires de SMICO, qu'ils soient belges ou congolais, sont tous des anciens banquiers. Moi-même, personnellement, j'ai été longtemps banquier ici dans les années 80. C'était l'époque de la Banque commerciale d'Aïrois, qui est devenue la Banque commerciale du Congo aujourd'hui. Et j'ai travaillé plusieurs années ici au Kivu comme directeur provincial. Donc, la banque, c'est mon métier. Le Kivu, je connais. Et je peux vous assurer qu'il y a cette exigence des actionnaires belges et des gestionnaires belges pour que toutes les procédures soient respectées. C'est que chez SMICO, eh bien, un actionnaire et un administrateur n'a pas droit à avoir un crédit. Moi, je ne veux nullement dénigrer la concurrence, mais si nous prenons les exemples d'Imara, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les premiers qui bénéficiaient des crédits, c'étaient les administrateurs et les actionnaires. Chez nous, c'est interdit dans nos statuts.
Écho d'économie. Parlons à présent de la clôture le week-end dernier à Kinshasa du premier atelier de formation sur la télédétection en Afrique. Cette formation ouverte aux experts des 15 pays de l'Afrique australe et centrale était organisée par le gouvernement de la RDC et du Japon. Le Japon voulait ainsi partager avec l'Afrique sa longue expérience de développement appuyée par cette technologie spatiale. Daniel Tambinzoni avait suivi pour nous la clôture des travaux. Suivant.
L'atelier de Kinshasa s'est clôturé sur une note satisfaisante des organisateurs. 50 récipiendaires, dont 18 experts congolais, ont reçu pendant 3 jours des données de base pouvant les orienter dans le traitement des données satellitaires dans le processus de développement de leur pays respectif. Pour le Japon qui a apporté l'expertise et l'expérience, le satellite intervient dans plusieurs domaines parmi lesquels l'agriculture, les mines, la forêt, la prévention des catastrophes naturelles et bien d'autres. Il va falloir maintenant que chaque pays exprime son besoin pour bénéficier du Japon besoins de l'assistance nécessaire. Ainsi, la RDC, 6 fois plus grande que le Japon, engagée sur le chemin de l'émergence à l'horizon 2030, entend organiser des ateliers de restitution en vue d'un bon partage d'informations, d'expériences. Des stages au bénéfice d'experts congolais au Japon sont également dans l'agenda d'après l'atelier de Kinshasa.
L'Agence nationale pour la promotion de l'industrie vient de publier son 3e cahier sectoriel, Investir dans le tourisme en RDC. Dans ce document, l'ANAPI encourage les potentiels investisseurs à venir au Congo où il y a encore de la place pour tout le monde. Son directeur général, le professeur Boabo Akaembe, estime que les 3 secteurs pour lesquels l'ANAPI a présenté les potentialités sont prioritaires. Il donne quelques résultats obtenus jusque-là. Il est au micro de Daniel Tambinzoni.
Dans ce secteur-là, on a récolté quelques succès. Sauf peut-être dans l'agriculture, on a récolté quelques succès. Aujourd'hui, vous avez par exemple dans le Bas-Congo ou ailleurs, des entreprises qui sont en train de construire des cimenteries. Alors que nous avons vécu pendant longtemps avec une cimenterie, les autres étaient en faillite, mais là, il y a des cimenteries qui viennent, il y a des entreprises de production de matériaux de construction, notamment caillasse et autres, qui ont été créées grâce à l'action de l'ANAPI. Et il y a de l'eau minérale, il y a du pain, il y a le savon, etc. Il y a toutes ces histoires, ces petites industries ou grandes industries qui ont été mises en place grâce à l'ANAPI. Mais il faut dire que dans ce secteur industriel, il y a encore beaucoup de place pour les investisseurs. Le secteur agricole n'a pas eu beaucoup de succès, mais il y a énormément de place. Le secteur touristique, il y a énormément de place. Nous allons continuer de fort cette année. Nous allons le faire très prochainement pour les transports et voies de communication. Nous allons le faire pour l'électricité. Nous allons le faire pour les infrastructures. Nous allons le faire pour l'immobilier. Et on va le faire aussi pour les mines. Donc voilà, tous ces secteurs sont des secteurs qui sont intéressants pour les investisseurs. Mais il ne faut pas non plus dire qu'on a sélectionné des secteurs prioritaires, donc les autres ne valent rien. Non. Les autres valent aussi. Le secteur bancaire vaut quelque chose dans ce pays, le secteur de télécommunication vaut quelque chose, le secteur de la santé, de l'enseignement, etc.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Julien Niamouini, mise en onde par Jean-Noël Mokondo et suivie par vous. Merci.